Reconnaissance. Après ces 5 fusées éclairantes à retardement lancées dans l'axe du cylindre, nous possédons un bon relevé photographique de toute sa longueur. Tous les traits saillants sont cartographiés. Bien que rares soient ceux que nous avons pu identifier, nous leur avons donné des noms provisoires. La cavité interne est longue de 50 km et large de 16. Les deux extrémités sont hémisphériques, mais les structures attenantes sont d'une géométrie complexe. Nous avons appelé le nôtre l'hémisphère nord, et c'est là, dans l'axe, que nous établissons notre première base. S'écartant l'une de l'autre selon un angle de 120 degrés, 3 échelles rayonnent à partir du moyeu central. Longues de près d'un kilomètre, elles aboutissent à une terrasse ou plateau annulaire qui fait le tour du dôme. 3 énormes escaliers relaient à partir de là les échelles et descendent sur la plaine. Imaginez un parapluie qui n'est que 3 baleines également espacées et vous aurez une idée correcte de cette extrémité de Rama. Chacune de ces baleines est un escalier très abrupt à proximité de l'axe, mais dont la pente s'adoucit à mesure qu'il descend vers la plaine. Les escaliers que nous avons appelés Alpha, Beta et Gamma, loin d'être continus, sont coupés par 5 autres terrasses circulaires. Nous pensons qu'il doit y avoir entre 20 et 30 000 marches, et il ne devait être emprunté qu'en cas d'extrême nécessité, car il est inconcevable que les Raméens, ou quel que soit le nom qu'on leur donnera, n'aient pas eu de moyens plus aisés de gagner l'axe de leur monde. L'hémisphère sud est d'un aspect très différent. Il n'a par exemple ni escalier, ni moyeu central plat, mais un énorme éperon qui, sur plusieurs kilomètres, matérialise l'axe. Il est lui-même entouré de 6 éperons moindres. L'ensemble a une allure extrêmement étrange, et nous ne parvenons pas à imaginer ce qu'il signifie. Nous avons appelé plaine centrale cette portion de cylindre longue de 50 kilomètres qui sépare les deux dômes. Il peut sembler insensé d'appeler plaine une surface aussi évidemment courbe, mais à notre sens, cela est justifié. Elle nous apparaîtra plate quand nous nous y poserons, tout comme l'intérieur d'une bouteille peut paraître plat à la fourmi qui la parcourt. Le trait le plus frappant de la plaine centrale et la bande sombre, large de 10 km, qui la coupe à mi-chemin des deux hémisphères. Son aspect étant celui de la glace, nous l'avons baptisée la mer cylindrique. Juste en son milieu se trouve une vaste île ovale, longue de 10 km environ et large de 3, couverte de structures élevées. À cause de sa ressemblance avec le vieux Manhattan, nous l'avons appelée New York. Cela dit, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une ville. Cela ressemble plutôt à une usine énorme ou aux installations de quelques raffineries. Mais des villes, disons, des agglomérations, il y en a, et au nombre de 6 au moins. Construites pour des êtres humains, elles auraient pu abriter 50 000 personnes environ. Nous les avons appelées Rome, Pékin, Paris, Moscou, Londres, Tokyo. Elles sont reliées par des routes et quelque chose qui ressemble à un système de rails. Dans la carcasse vide qu'est ce monde, il y a pour des siècles de travail et de recherche. Nous sommes devant 4 000 km² à explorer en quelques semaines. Je me demande si nous trouverons jamais la réponse aux 2 énigmes qui me hantent depuis que nous y avons pénétré. Qui était-il? Et que s'est-il passé? L'enregistrement était terminé. Sur Terre et sur la Lune, les membres de la commission Rama se détendirent, puis passèrent à l'examen des cartes et des clichés étalés devant eux. Bien qu'ils les eussent déjà étudiés depuis plusieurs heures, la voix du commandant Norton leur ajoutait une dimension que ne pouvait restituer aucune image. Car lui avait été physiquement présent. Ses yeux, son regard, avaient rencontré cet extraordinaire monde inversé au bref moment où sa nuit séculaire avait été déchirée par les fusées éclairantes. Et il était l'homme qui conduirait toute expédition destinée à l'explorer.
« Docteur Pereira, je crois que vous aimeriez faire quelques commentaires. »
Son Excellence l'ambassadeur Beau se demanda brièvement s'il n'aurait pas dû donner la parole en premier au professeur Davidson, qui était le doyen de cette assemblée de savants et de surcroît le seul astronome. Mais le vieux cosmologue semblait toujours dans un état cotonneux de choc et de toute évidence hors de son élément. Durant toute sa carrière, il avait considéré l'univers comme l'arène où s'affrontaient les titanesques forces impersonnelles de la gravitation, du magnétisme et des radiations. Il n'avait jamais cru que la vie pût jouer un rôle important dans ce scénario et considérait son apparition sur Terre, Mars et Jupiter comme une aberration contingente. Or, la preuve était faite que la vie non seulement existait hors du système solaire, mais avait atteint des sommets dépassant de loin les succès de l'humanité ou ceux auxquels elle espérait parvenir au cours des siècles à venir. Bien plus, la découverte de Rama portait un coup à un autre dogme que professait depuis des années le professeur Olaf. Poussé dans ses derniers retranchements, il admettait à contre-cœur que, bien sûr, la vie pouvait exister dans d'autres systèmes stellaires, mais qu'il était absurde, soutenait-il, avec constance, qu'on l'imaginât traversant jamais les abîmes interstellaires. Peut-être les Raméens avaient-ils échoué si l'idée du commandant Norton que leur monde était désormais une tombe était juste. Mais au moins, ils avaient tenté l'exploit et avaient des moyens qui indiquaient une grande confiance quant à son issue. Puisqu'un tel événement s'était produit une fois, il devait s'être produit bien d'autres fois dans cette galaxie de 100 000 millions de soleils. Et quelqu'un, quelque part, finirait bien par réussir. C'était cette thèse que, sans preuve mais à grand renfort de gestes, le docteur Carlyle Pereira avait défendu pendant des années. Il était maintenant un homme heureux, bien que considérablement frustré. Rama avait spectaculairement corroboré ses vues, mais il ne poserait jamais le pied, lui, sur Rama, ne le verrait jamais de ses propres yeux. Si le diable lui était soudain apparu pour lui offrir le don de téléportation instantanée, il aurait signé le contrat sans se soucier de la clause imprimée en caractères minuscules.
« Oui, monsieur l'ambassadeur, je pense posséder des informations de quelque intérêt. Nous sommes indubitablement en présence d'une arche spatiale. C'est un vieux thème de la littérature astronautique. » J'ai pu en retrouver le cheminement depuis le physicien britannique J.D. Bernal, qui proposait cette méthode de colonisation interstellaire dans un livre publié en 1929, oui, il y a 200 ans. Et, bien avant lui, le grand pionnier russe Tsiolkovsky avait avancé des idées similaires. Pour se déplacer d'un système stellaire à un autre, vous avez plusieurs possibilités. En supposant que la vitesse de la lumière est une limite absolue, ce qui n'est toujours pas complètement établi, quoi qu'on dise le contraire, il n'y eut du côté du professeur Davidson qu'un soupir indigné mais pas de protestation explicite. Vous pouvez ou bien voyager vite dans un petit vaisseau, ou bien lentement dans une grande nef. On ne voit pas pour quelle raison technique un vaisseau spatial n'atteindrait pas 90% ou plus de la vitesse de la lumière. La conséquence, des traversées de 5-10 ans entre étoiles voisines, fastidieuses, certes, mais non impraticables, surtout pour des créatures dont la durée de vie se mesurerait en siècles. On peut imaginer des voyages de cette durée effectués dans des vaisseaux guère plus vastes que les nôtres. Mais peut-être de telles vitesses sont-elles impossibles dans un cadre financier raisonnable. Vous le savez, il faut se munir du carburant destiné à freiner la fin du voyage, même s'il s'agit d'un aller simple. Il peut donc être plus réaliste de prendre son temps, 10 000, 100 000 ans. Bernal et d'autres ont pensé que ce pouvait être réalisé à l'aide de micro-mondes mobiles qui, dans leur flanc large de quelques kilomètres, emporteraient des milliers de passagers pour des traversées qui s'étendraient sur plusieurs générations. Un tel système, naturellement, devrait être rigoureusement clos, la nourriture, l'air et toutes les denrées vitales étant recyclées. La Terre elle-même ne fonctionne pas d'une autre façon, bien qu'à plus grande échelle. Quelques auteurs ont suggéré de construire ces arches spatiales selon un principe de sphère concentrique. D'autres ont proposé des cylindres creux, tournant sur eux-mêmes, de telle sorte que la force centrifuge fournisse une pesanteur artificielle. Et c'est ce que nous trouvons dans le cas de Rama. Le professeur Davidson ne put rester sans réagir devant cet épanchement verbeux.
Ne parlons plus de force centrifuge. C'est un fantasme de technicien. Seule existe l'inertie.
Vous avez parfaitement raison. Cela va de soi, reconnut Pereira. Mais essayez donc d'en persuader un homme qui vient d'être éjecté d'un manège. De toute façon, la rigueur mathématique ne semble pas nécessaire.
Écoutez, intervint le docteur Bose avec une pointe d'agacement. Nous savons tous ce que vous voulez dire, ou du moins nous le pensons. Veuillez ne pas détruire nos illusions.
Je tenais simplement à faire comprendre que Rama ne met en œuvre aucun concept nouveau pour nous, bien que sa taille soit saisissante. Voilà 200 ans que les hommes ont imaginé semblables choses. Cela dit, j'aimerais en venir à une autre question que je me pose. Depuis combien de temps exactement Rama sillonne-t-il l'espace? Nous sommes maintenant en possession de données très précises sur son orbite et sa vitesse. En supposant que rien ne puisse, n'ait pu infléchir sa trajectoire, nous pouvons déterminer quelle était sa position voici plusieurs millions d'années. Nous pensions que cela nous mettrait sur la piste d'une étoile relativement proche. Il n'en est rien. Rama n'est passé à proximité d'aucune étoile depuis 200 000 ans, et la dernière qu'il ait croisée se trouve être une variable irrégulière, c'est-à-dire un des soleils les plus défavorables qu'on puisse imaginer pour un système solaire habité. La pulsation de sa brillance est d'une amplitude de 1 à 50. Toute planète se trouverait alternativement grillé ou surgelé, tous les 2 ou 3 ans.
« J'ai une idée, » intervint le docteur Price, « qui explique peut-être tout. Pourquoi ce soleil n'aurait-il pas été jadis normal avant de devenir instable, obligeant les Raméens à en chercher un autre ?»
Le docteur Pereira, qui admirait la vieille archéologue, l'écouta avec douceur. Mais que dirait-elle, elle, se demanda-t-il, s'il venait, lui, enfoncer des portes ouvertes dans son propre domaine. « Nous y avons pensé, répondit-il d'un ton amène, mais si nos théories actuelles sur l'évolution des étoiles sont exactes, cette étoile ne peut pas avoir été stable et ne peut pas avoir eu de planète habitée. Donc, Rama parcourt l'espace depuis au moins 200 000 ans et peut-être depuis plus 1 million d'années. C'est à présent un objet froid, ténébreux et apparemment mort, et je crois savoir pourquoi. Les Raméens n'ont pas nécessairement eu le choix. Peut-être fuyaient-ils réellement quelque catastrophe, mais ils ont fait une erreur de calcul. Aucun système écologique clos ne peut être efficace à 100%. Il y a toujours perte, gâchis, dégradation de l'environnement et amoncellement de produits polluants. Sans doute faut-il des milliards d'années pour empoisonner et épuiser une planète, mais cela finit bien par arriver. Les océans vont s'assécher, l'atmosphère va s'échapper. Selon nos critères, Rama est énorme. Mais ce n'est qu'une minuscule planète. Mes calculs basés sur les déperditions au niveau de son enveloppe et quelques hypothèses raisonnables sur le taux de rotation biologique indiquent que sa capacité écologique n'était que 1 millier d'années. J'irai jusqu'à leur en accorder 10 000. Ce qui serait un délai suffisant à la vitesse où voyage Rama pour un trajet entre 2 soleils des amas du centre de la galaxie. Mais non pas au-delà, dans la population dispersée de ses bras en spirale. Rama est un vaisseau qui a épuisé ses provisions avant d'atteindre son but. C'est une épave à la dérive entre les étoiles. Il n'y a qu'une objection sérieuse à cette théorie, et je me réserve de la soulever. L'orbite de Rama est ajustée avec une telle précision sur le système solaire que toute coïncidence semble devoir être écartée. Je dirais même que sa trajectoire sert d'un peu trop près le soleil pour ne pas y laisser, si j'ose dire, des plumes. Et l'Endeavour devra, pour éviter le surchauffement, se dégager bien avant qu'il ait atteint le périhélie. Je ne prétends pas comprendre les raisons de tout cela. Peut-être Rama est-il encore soumis à quelques mécanismes de guidage qui le dirigent sur la plus proche étoile utilisable des millénaires après que ses constructeurs sont morts. Car ils sont morts. J'y engage ma réputation. Tous les échantillons que nous avons prélevés de l'intérieur sont stériles, pas le moindre micro-organisme. Quant à tout ce qu'on pourra vous dire sur l'hibernation prolongée, n'y prêtez pas attention. Il y a des raisons fondamentales pour lesquelles les techniques d'hibernation ne sont pas applicables à des durées dépassant un nombre très restreint de siècles. Or, il est question ici de durée 1000 fois supérieure. Que les fanatiques de Pandore et leurs sympathisants ne s'inquiètent donc pas. Pour ma part, j'en suis navré. Il aurait été prodigieux d'avoir pu rencontrer une autre espèce intelligente. Au moins aurons-nous trouvé la réponse à une antique question. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne pourrons plus jamais regarder les étoiles du même œil.